dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mouhamed Oumfa.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, des familles burkinabées accueillant des déplacés internes font face à des charges supplémentaires alors que le nombre de déplacés dépasse les 2 millions. Au Niger, plus de 18 000 personnes vivant dans la région de Tillaberi ont commencé à rentrer chez elles après avoir fui des récentes violences communautaires. Dans notre fait marquant cette semaine, l'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou a présenté officiellement le prix Mo Ibrahim à son successeur Mohamed Bazoum. Notre partenaire de Canal 3 nous parlera des aspects exceptionnels de sa gouvernance. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Cette émission est diffusée en direct sur la page Facebook de VOA Afrique, sur la page YouTube, évidemment, sur notre site web voafrique.com. Février et mars 2023, le nombre officiel de déplacés internes est passé de 1,9 million à plus de 2 millions en raison des attaques armées qui sévissent au Burkina depuis 2015. À Waïgouya, ville située à 180 km au nord de Ouagadougou, de nombreux déplacés ont été accueillis par des membres de leur famille, ce qui impose des charges supplémentaires à ces familles d'accueil. Notre correspondant Gilles Dasda a rencontré la famille Porgo qui héberge depuis quelques années des dizaines de parents qui ont fui leur village. Voici son reportage.
6 heures du matin au domicile de Souleymane Forgo, c'est l'heure du petit déjeuner dans ce quartier de Waïgouya, ville située à 180 km au nord de Ouagadougou. C'est le moment de s'alimenter. Ici, les marmites prennent la place des caféières et les gobelets dans lesquels thé et café sont servis sont prioritairement destinés aux femmes et aux enfants. C'en est ainsi chaque jour pour ces personnes qui ont dû fuir leur village du fait d'individus armés non identifiés. Chacune des histoires de ces déplacés est un drame. Awa Sawadogo a fui Tougou, son village situé à une vingtaine de kilomètres de là.
Ce sont des terroristes qui sont venus nous chasser. Nous étions tranquillement chez nous. Un matin, ils nous ont tout simplement chassés.
Tout comme Awa, Kadiso Bouda a aussi été chassée de Boulouga, où elle menait une vie paisible. C'est à 30 km de notre position. Pour ces deux femmes et 10 des leurs, ce domicile est désormais le dernier abri.
On est parti sans rien du tout, sinon ils allaient nous tuer. Toute la famille est venue ici, et c'est le propriétaire de cette maison qui nous abrite.
Et nous, juste le chef de famille d'ici qui nous prend en charge.
Le chef de famille dont elle parle, c'est lui. Souleymane Porgo, l'homme et sa famille accueillent un nombre important de déplacés. Des parents, mais aussi de simples connaissances venant de différents villages. Tout commence en 2020.
Avant, j'étais plus d'une soixantaine de personnes qui venaient ici. C'est vraiment pas facile, quoi, non. Mais on a tenté de gérer avec les moyens qu'on a.
Ainsi, il va réussir à caser de nombreux déplacés internes en louant des maisons dans des quartiers précaires, mais à sa grande surprise, avec la récente attaque de Karma Village de ses oncles maternels, une nouvelle vague de déplacés va déferler sur son domicile. 57 personnes, à nouveau, d'autres seront relogées ailleurs.
Mais l'autre partie est toujours là. Voilà. Sur le plan nourriture, c'est la croix et la bannière. Voilà, on fait une cuisine pour moi. Moi, j'avais une famille de 15 personnes. Maintenant, plus tout ce qui soit arrivé, vous voyez, je ne peux pas. Même pour le simple bois, si vous payez 2000 francs de bois, c'est juste pour la zone. C'est fini, il faut payer encore pour une soirée.
Il faut nourrir près de 70 personnes, dont une partie de celles qui sont logées ailleurs. À ce point-là, le sac de riz de 50 kilos n'excède pas 4 repas. Mais ce n'est pas le seul casse-tête.
60 et quelques personnes. Vous voyez l'espace de la cour, cette terrasse. ici, les zones ici. Cette, vous voyez cette partie-là, mon garage et ces maisons-là. C'est ici que ces gens dorment. Voilà, s'il n'y a pas de pluie, tout le monde dort ici. Et s'il y a une pluie, tout le monde rentre dans les maisons que vous voyez là, ça te coince.
De ce beau monde pris en charge par Souleymane Porgo, certains ont une histoire qui fait froid dans le dos. C'est le cas de Sali, nom d'emploi. Nous l'avons retrouvé dans une localité. Il a vécu une barre lors de l'attaque de son village il y a 6 mois.
Un jour, les terroristes ont débarqué comme ça et commencé à tuer les gens du village. Nous étions de simples cultivateurs. Nous n'avons pas pu résister. Ils étaient nombreux. Ils ont tué beaucoup de personnes. Mes frères ont été tués. Ensuite, ils m'ont pris. Ils m'ont amené en brousse. Ils me frappaient et me menaçaient à tout moment. C'était terrible et j'étais gravement blessé.
Par miracle, il va réussir à échapper à ses geôliers. Avec cependant d'importants sévices corporels, bastonnades, mais aussi une balle dans le dos lors de sa fuite.
J'ai fait 2 semaines de captivité et j'ai pu m'enfuir une nuit. J'ai marché pendant plusieurs jours pour arriver à Ouagadougou. J'ai été soigné. Imaginez-vous, tu es chef de famille et tu te retrouves, toi et toute ta famille, à la charge d'un autre chef de famille. C'est grave. Ce qu'on veut, c'est de l'aide.
Après de longues semaines de prise en charge, Salif a quitté le domicile de son hôte. Il est aujourd'hui dans un endroit sécurisé. Les autres déplacés internes avec qui nous avons échangé affirment n'avoir pas reçu de soutien venant de l'État ou d'ONG. Souleymane, quant à lui, n'a reçu que la somme de 100 000 francs en un peu plus de 2 ans comme aide. Les autres appuis lui viennent d'amis, de frères et de voisins du quartier.
Voilà, Dieu. C'était le reportage de Gildas Da. Gildas qui est avec nous en ligne. Bonsoir Gildas.
Bonsoir Mohamedou.
Voilà, nous venons de suivre votre reportage à Waigouya. Parlez-nous des conditions de réalisation de ce reportage. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières?
Oui, Mohamedou, donc il faut d'abord dire que déjà partir de Ouagadougou pour Waigouya, c'est déjà une petite épreuve, hein, parce que c'est bien vrai que les transporteurs continuent d'assurer la desserte, mais sachez que déjà à 30 km avant Waigouya, il y a déjà eu à maintes reprises des contrôles effectués par des hommes armés non identifiés. Il y a aussi eu des présences qui ont été signalées. Il y a eu des attaques de villages aussi dans cette zone-là. Donc, c'est vous dire déjà que pour arriver à Waigouya, ce n'est pas aisé, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, pour en arriver au cas de Souleymane, il faut dire que bien avant que j'arrive à Waigouya, excusez-moi, déjà, mes contacts m'avaient mis en lien avec Souleymane Porgo. Une fois sur place, j'ai échangé avec lui et le nombre de déplacés à sa charge, ça m'a vraiment laissé sans voix et j'ai donc décidé de relater son cas. Mohamedou, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'autres problèmes hormis l'insécurité. Mais ce que je veux ajouter aussi, c'est que quand je quittais la zone, il y a 3 villages pas loin du lac qui avaient été attaqués. Il y avait donc d'autres déplacés supplémentaires qui arrivaient en plus sur Waigouya.
Effectivement, Gildas, on a remarqué qu'il y avait de très nombreuses personnes qui vivaient dans la concession de M. Porgo. Comment est-ce qu'il parvient à gérer toutes ces personnes? Est-ce qu'il reçoit du soutien?
Oh, il gère difficilement hein, ces personnes-là, ça c'est vraiment ça, il faut le dire. Il faut noter qu'il est fonctionnel et il dirige aussi une petite association qui s'occupe de santé de la reproduction et de santé sexuelle. Mais il fait vraiment avec les moyens qu'il a. Hein. Il m'a confié clairement que s'il abandonnait ce beau monde-là, ce serait une catastrophe. Donc pour lui, il n'est pas question d'abandonner ce beau monde-là. Alors en termes de soutien, il faut dire qu'il a le soutien de ses frères qui sont à Ouagadougou. Il a d'autres frères aussi qui vivent en Côte d'Ivoire, qui lui apportent de l'aide. Et de temps à autre, il a quelques amis et des voisins du quartier qui lui donnent un coup de main. C'est principalement sur ça qu'il s'appuie. Mais clairement, il faut dire qu'il dit lui-même avoir besoin d'aide du gouvernement et d'avoir besoin d'aide des ONG parce qu'il est totalement submergé. Et les déplacés continuent d'affluer sur Waigouya, comme je vous l'ai dit tout à l'heure.
Effectivement, Gildas, de quel type d'aide ont besoin toutes ces personnes qui vivent chez M. Porgo et au-delà?
Il faut clairement, la première réponse que j'ai envie de vous donner, c'est des abris. Des abris, c'est-à-dire des tentes ou bien des maisons pour se loger et en cas de pluie. Il y a aussi, ce qui est demandé, c'est aussi des vivres hein, pour se nourrir. Ce sont les principales demandes qui reviennent, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez aussi, Mouhamadou, il y a des familles qui arrivent à Waïguia et qui s'installent sur des terrains nus à la merci des intempéries. Et le propriétaire de ces terrains nus-là peut les y déloger à tout moment, en fait. Donc, vous voyez un peu la situation à Waïguia. Donc, avec les abris, la nourriture, les déplacés estiment déjà que c'est un bon début. Maintenant, s'il y a aussi du cash qui peut aider à développer les activités, c'est considéré un peu comme un bonus. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que selon les derniers chiffres dont on a parlé en début de reportage, c'est que parmi ces PDI, il y a 58,5%, s'il vous plaît, qui sont des enfants. Donc, vous voyez clairement que si les parents ont une activité rémunératrice, ils peuvent beaucoup prendre plus soin de ces enfants-là. Déjà, il y a un autre problème, c'est que parmi ces déplacés qui sont arrivés ces derniers temps à Waïguia, beaucoup n'ont pas été recensés. Et Souleymane le dit lui-même, ce n'est pas de la faute de l'action sociale parce qu'il estime clairement que l'action sociale est totalement dépassée, en fait. Voilà, l'action sociale est totalement submergée. Et ça, c'est un fait. Ça se constate sur le terrain. Dès que vous marchez dans la ville de Waïguia, vous voyez des gens qui rentrent avec ce qu'ils ont pu emporter. Il faut dire que le souhait final aussi de ces déplacés internes, c'est surtout de pouvoir retourner dans leur village respectif parce qu'ils ressentent un peu la situation comme une sorte d'humiliation. Ce que je peux ajouter aussi, c'est qu'à Waïguia, il y a en gros 5 ou 6 sites officiels en fait qui prennent en charge les déplacés internes, mais qui sont totalement débordés. Selon les statistiques officielles, la commune de Waïguia est la 12e commune qui reçoit le plus de déplacés internes. Donc vous voyez un peu le problème.
Tout à fait, Gildas. Merci d'avoir été là. Pour continuer la conversation et avoir une vue globale sur le sujet, nous avons en ligne Emmanuel Gignac, qui est le représentant du HCR au Niger. C'est l'invité de cette édition de Focus Sahel. Bonsoir, Monsieur Gignac.
Bonsoir.
Voilà. Quel est l'état des lieux des déplacés et réfugiés au Niger où vous vivez et dans le Sahel de manière générale?
Oui, mais je peux parler du Niger où je me trouve. Je suis en ce moment à Niamey. On a une situation au Niger, comme vous savez, où la crise humanitaire a commencé avec la crise au Mali en 2012, avec l'arrivée des réfugiés maliens. Qui va être bientôt, c'est à partir de 2014-2015, suite au début des incursions de groupes armés sur le territoire nigérien, qui va conduire aux déplacements de population, comme on l'entend dans le cas du Burkina Faso. Donc des gens qui, par suite la menace, suite à des attaques, quittent leur village en ne prenant pratiquement rien, étant accueillis par les communautés d'accueil la plupart du temps. Il y a eu aussi des sites qui ont été organisés. Alors ça, c'est toute la zone de Tillabéri. On a après ça, de l'autre côté du pays, du côté du bassin du lac Tchad, la situation qui est plus reliée à la situation du lac Tchad, du côté du Nigeria, où on a eu des arrivées assez massives à partir de 2015-2016 de réfugiés du Nigeria, et même chose suite à des incursions de groupes armés, des déplacés internes dans la zone de Difa qui se mélangeait avec les réfugiés. On a eu plus tard, en 2019, la crise dans les trois états du Nigeria, dans la partie nord-ouest, Sokoto, Zamfara et Katsinga, qui ont conduit au déplacement de plus de 80 000 réfugiés du Nigeria et qui vont, suite à d'autres arrivées en 2021,
alors, monsieur,
déborder du côté de Tawa. Voilà.
Voilà. On a maintenant un aperçu global de la situation, précisément au Niger. Comme on l'a vu dans le reportage qui vient de passer, certains déplacés trouvent refuge dans des familles d'accueil. Quels sont les défis auxquels ces familles d'accueil sont confrontées et comment est-ce que cela affecte leur situation?
Alors, c'est très variable, c'est selon les régions. Mais très vite, il y a eu des programmes ici au Niger pour pouvoir, sinon appuyer les familles d'accueil, au moins appuyer les communautés, c'est-à-dire avec, par exemple, la construction de salles de classe additionnelles ou de centres de santé et bien sûr de distribution alimentaire qui ne vise pas que les places internes de réfugiés, mais également les populations, enfin les familles vulnérables dans les populations autres, et qui permet justement de maintenir une cohésion sociale. C'est une politique extrêmement importante auquel le gouvernement est attaché. Et bien sûr, tous les acteurs humanitaires, bien sûr, adhèrent à cette approche-là. Ce qui est plus difficile, c'est dans les zones où il y a une difficulté d'accès pour les réseaux de sécurité, où les agences humanitaires, que ce soit les ONG ou les Nations Unies, n'ont pas accès, ou très difficilement, pour les réseaux de sécurité. Où les gens, donc, c'est difficile d'avoir accès aux populations, donc c'est difficile de faire les évaluations et de pouvoir organiser l'assistance conséquemment.
Oui. Alors, globalement, vous venez d'évoquer déjà des problèmes sécuritaires. Quelles sont les autres difficultés auxquelles vous faites face, le HCR et d'autres ONG impliquées dans la réponse à l'accueil, à cette crise des réfugiés au Niger et globalement dans le Sahel?
Oui. Alors peut-être juste pour rappeler, là, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire, en termes de chiffres, c'est le chiffre moins important qu'au Burkina, mais au total, on est quand même au-delà de 700 000 personnes qui sont affectées par les déplacements forcés, soit réfugiés, soit déplacés internes. Les déplacés internes, il y en a à peu près presque 780 000, et à peu près 320 000 pour les réfugiés. Les difficultés qu'on a, je fais allusion sur l'accès, la sécurité, mais qui met en péril aussi la sécurité des personnes déplacées, y compris des personnes qui sont seules. Là, je dirais aussi que une des difficultés, bien sûr, c'est les ressources. Hein, on n'a pas toujours toutes les ressources qu'on voudrait pour pouvoir développer, pour pouvoir inclure tous les besoins. En revanche, à partir du moment où les gens sont dans des zones relativement sécurisées, il y a énormément d'interventions qui ont fait une espèce de pont entre l'aide humanitaire et l'aide qui est durable. Donc des projets, par exemple, de développement qui vont inclure à la fois les populations hautes, les populations réfugiées, etc. Il y a une politique délibérée de vouloir encourager une autosuffisance des populations déplacées pour qu'il puisse y avoir moins de dépendance à l'endroit de l'aide humanitaire.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Gignac. Je rappelle que vous êtes le représentant du HCR au Niger. Merci d'avoir participé à cette émission de Focus Sahel. Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
On reste au Niger. Plus de 18 000 personnes ont été contraintes de fuir leur foyer début mai en raison de violences intercommunautaires dans la région de Tillabéri, frontalière avec le Mali. Les autorités locales affirment avoir rétabli le calme et la paix. Depuis lors, une opération de retour volontaire de ces déplacés est en cours. Notre correspondant au Niger, Abdulrazak Idrissa, nous fait le point de la situation dans ce reportage.
Une semaine après le début des opérations de retour, plus de la moitié des personnes déplacées est rentrée chez elles selon les autorités locales. Les dispositions sécuritaires notamment ayant été prises d'après elles. Moussa Douma est le maire de la commune rurale d'Ayourou.
C'était le lundi, quand le ministre était venu, il a demandé à ce que les retours soient sortis le lundi. Donc le lundi vraiment, on les a rencontrés, on les a expliqués. Bien avant le lundi, il y a déjà partis. Sont déjà partis. Donc, ceux qui restent aussi des lundi, on les a vus, ils sont partis. Et ça, il y a quelques-uns qui semblent qu'il y a toujours des doutes, qui ont des inquiétudes pour les donner. Et malgré tout, il y a des militaires dans les îles. On a amené les militaires dans les îles, les dimanches passés. Et tout le monde, il y a quelques-uns qui ne sont pas encore partis, qui sont plus de l'aïeule. Mais certainement, la plus grande partie, la plus grande partie, nombre de parties. Les militaires, tous les autres, quelques-uns, vraiment, ils ne sont pas partis pour les avoir.
Les souvenirs de ces difficiles moments qui les ont fait fuir sont encore vivaces dans les mémoires de ceux qui ne sont pas encore repartis. Fatouma raconte que les agresseurs avaient lancé un ultimatum pour que tous les habitants de leur village quittent les lieux. Cela fait plus de 10 jours qu'elle n'a plus de nouvelles de son livre. Dans ces conditions, alerté par les habitants des autres îles de l'arrivée des assaillants, Abdurrahman plutôt par pirogue. La quasi-totalité des cases du village, il ne pense pas qu'il puisse encore. Alors que concernant les attaques des groupes terroristes, une relative accalmie règne dans la zone. Le maire de la commune d'Ayourou regrette la survenue de ces incidents intercommunautaires.
Tout se passe très vite. C'est vraiment un conflit qui a créé les agriculteurs et les éleveurs. Les bergers et tout pour les jardins, ils mettent leurs animaux et ils veulent les jardins et leurs légères. Vraiment, c'est ce qui a fait le mécontentement qui a dégénéré la bagarre.
Dans une note synthèse de ces événements, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU rappelle que la situation souligne l'importance de renforcer la protection des populations civiles et de lutter contre l'impunité des crimes. L'élément déclencheur de ces violences reste les exactions commises sur des villageois par de présumés terroristes. Abdelrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Une note positive à présent pour continuer cette émission qui, je le rappelle, est diffusée en direct sur la page Facebook et YouTube de VOA Afrique. L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, lauréat du prix Mo Ibrahim 2020, a présenté officiellement son trophée à son successeur, Mohamed Bazoum, lors d'une cérémonie vendredi dernier. Ce prix reconnaît une gouvernance exceptionnelle en Afrique. C'est notre fait marquant de la semaine. Et pour en parler, je suis en ligne avec Séni Amadou. Il est le rédacteur en chef de notre station partenaire, Canal 3 au Niger. Bonsoir Amadou.
Bonsoir Mahamadou.
Voilà. Comment est-ce que les médias locaux ont couvert cette cérémonie de présentation officielle du prix du trophée Mo Ibrahim par l'ancien président Mahamadou Issoufou à son successeur?
C'était une couverture qui a réuni pratiquement l'ensemble des médias nationaux de la place au niveau du Centre international des conférences Mahatma Gandhi, où ces médias ont mis en relief justement la grandiosité de l'événement, la solennité de l'événement et également les invités, les personnalités qui ont été invitées, qu'elles soient nationales ou internationales, et surtout les témoignages sur la qualité ou bien les qualités de l'ex-président Issoufou Mahamadou, qui a été donc honoré par ce prix. Et également, les médias ont mis en relief les deux discours du président Mahamadou Issoufou, le président sortant donc, et de son successeur Bazoum Mohamed pour Issoufou Mahamadou. Les médias ont mis surtout en relief une de ses phrases, là où il déclarait que il dédie ce trophée à l'action collective, à tous ceux qui l'ont supporté, soutenu pendant qu'il était à l'opposition pendant 20 ans et pendant qu'il a gouverné le Niger pendant 10 ans. Son successeur, Mohamed Bazoum, lui, a parlé de postérité, que le président, l'ex-président est rentré dans la postérité avec ce prix et qu'il montre désormais qu'au Niger, il n'y a que la voix des jeunes qui amène au pouvoir et qu'il n'y a aucune possibilité de rester au pouvoir au-delà des deux mandats constitutionnels.
Oui, Amadou, parlons justement de la gouvernance du président, l'ancien président Mahamadou Issoufou. Comment est-ce que les médias ont mis en avant cette gouvernance exceptionnelle? Qu'est-ce qui, selon les médias, a fait la particularité du président Issoufou au point de lui valoir ce prix?
surtout la question de l'alternance démocratique, puisque depuis la conférence nationale de 1990, qui a consacré la démocratie, aucun président démocratiquement élu n'a pu céder ou bien un autre lui succéder de la voie la plus démocratique. Donc c'est surtout ce point-là qui a été mis surtout en avant, et beaucoup aujourd'hui qui commentent cette actualité, parce que c'est l'un des points, en tout cas ben, le gros point qui a fait en sorte que ce prix a été décerné à Mohamed Issoufou, puisqu'il est vraiment le premier historiquement à faire en sorte que déjà deux ans déjà avant les élections de 2021, il a déclaré qu'il se pas candidat et qu'il va céder, ne va pas briguer
l'alternance au Niger. Très bien. Merci beaucoup, Séni Amadou. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Canal 3, une station partenaire de VOA Afrique au Niger. Au Mali, il y a quelques semaines du référendum constitutionnel, la vulgarisation du projet de nouvelle constitution est en cours dans les écoles. Une initiative du ministère de l'Éducation pour aider les élèves à mieux appréhender le contenu de cette constitution. À Kati, à 15 km de Bamako, notre correspondant Georges Atino a assisté à une séance de partage.
Au lycée Mambi Sidibé de Kati, le professeur Issa Diawara dispense ses cours comme d'habitude. Le cours d'aujourd'hui est bien particulier puisqu'il porte sur le projet de constitution au Mali. Ce cours, appelé leçon modèle, a pour but de partager le contenu du projet de constitution auprès des élèves.
Nous faisons rarement des cours de ce genre, mais nous souhaitons que ces initiatives se renouvellent. Et comme on le dit, la plus belle des connaissances est celle de soi. Nous avons tout mis en place pour que les enfants puissent savoir et comprendre l'utilité de la Constitution. En plus de cela, nous leur avons expliqué les changements entre les projets de Constitution et la Constitution en cours.
La vulgarisation du projet de constitution à travers les leçons modèles est une initiative du ministère de l'Éducation. Sa mise en œuvre repose sur les académies d'enseignants qui coordonnent avec les établissements scolaires. Toumani Diakité est l'un des élèves ayant suivi la leçon modèle. Selon lui, ce cours l'a aidé à mieux comprendre le référendum constitutionnel.
Ce cours m'a permis de comprendre ce qu'est la Constitution et de savoir son importance. En plus de cela, j'ai fait une bonne connaissance de la Constitution. Nous devons savoir ce qui est essentiel pour le pays parce que nous sommes l'avenir du Mali.
Les élèves de cette classe n'ont pas l'âge de voter. Malgré cela, ils attendent de jouer pleinement leur rôle qui est de partager avec les amis et les parents le contenu du projet de Constitution. Joseph Koulbani.
Nous n'avons pas l'âge de voter, mais vulgariser le contenu du projet de constitution est un devoir pour moi, pour aider les uns et les autres à comprendre.
Le préfet de Kati, Haruna Diara, était présent lors de la leçon modèle. Selon lui, cette initiative permet d'anticiper certains problèmes et d'aider à éclaircir les zones d'ombre.
Nous avons eu des difficultés dans le passé parce que nous n'avons pas pu mettre en place ce type d'initiative. Parce que dans un pays, à chaque fois que les autorités prennent une décision, il y a des pour et des contre. Et ce sont ceux qui sont contre qui peuvent empêcher ces idées d'émerger. C'est pour cela qu'il était important de partager le contenu de la Constitution avec les élèves afin qu'ils puissent le partager avec d'autres et en famille.
La vulgarisation du projet de constitution dans les écoles continuera jusqu'au 31 mai 2023.
C'est avec ce reportage relaté par Arzuma Compaoré que nous mettons un terme à cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés dans ce voyage au Sahel. Merci également à nos invités qui ont partagé avec nous leur expertise et leur point de vue. Enfin, je tiens à saluer particulièrement tous nos correspondants qui nous ont apporté les nouvelles de la région. Mouamadou Oumfa à ce micro, Georges Léonard Sagnot et Arzuma Compaoré ont assuré la mise en onde. Nous vous remercions d'avoir écouté Focus Sahel. À très bientôt.
C'était Focus Sahel. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'une des régions les plus complexes de la planète.
Vos points de vue, vos défis, vos récits et vos contributions sont les bienvenus.
Laissez-nous vos commentaires sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.